Vous embarquez avec Valise et Gourmandise pour une heure de voyage. Dépaysement assuré en départ de Nantes pour une ville européenne avec Angie et Bénédicte. Décollage imminent. Attachez vos ceintures. Et hop, c'est reparti en 2021 pour une nouvelle saison avec notre émission Valise et Gourmandise. Nous sommes bien le lundi 22 février et il est 18h en direct de Prune 92 FM. Nous vous gardons précieusement très près ou pas trop de nous avec le Covid pendant une heure. Nous vous emmenons en voyage dans une ville du nord-est de l'Europe où l'histoire est déterminante avec une histoire récente à la fois dramatique avec les deux guerres mondiales et l'occupation, mais comme le phénix, elle renaît de ses cendres, pleine de résilience avec la réunification et à nouveau la capitale de l'Allemagne. En architecture, ces monuments sont impressionnants. Depuis la chute du mur de Berlin, cette ville continue de développer son économie et de nombreux artistes y débarquent pour développer leur imaginaire. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir Angie, bonsoir à toutes et à tous.
As-tu des précisions à nous apporter?
Déjà, je veux juste préciser, c'est bien Berlin. Parce que,
c'est bien Berlin.
Parce qu'on en a vaguement parlé de cette ville, mais c'est effectivement, nous vous invitons à Berlin. Donc, si vous n'avez... Et une petite précision, si vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission en entier ou si vous voulez la réécouter, vous pourrez le faire en podcast sur Prune 92 FM. Allez, Angie, emmène-nous à Berlin.
Oui, chers auditeurs, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, en effet, vous pourrez nous écouter sur www.prune.net avec Valise et Gourmandise sur la destination de Berlin. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à Patrick. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Patrick.
Bonsoir, bonsoir.
Notre réalisateur aux manettes sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cette émission. Et en plus, il nous a fait plaisir de sélectionner la playlist de cette émission.
Tout à fait, tout à fait. J'ai tapé Berlin musique. Voilà.
Trop facile.
Il ne faut pas tout garder les secrets. Mais en tout cas, tu as utilisé la playlist de Prune, donc ça, c'est
en
que
partie,
du bonheur.
En partie, tout à fait.
Voilà.
Alors,
commençons par la géographie.
On commence tout de suite par la géographie. Angie?
À moins que tu nous mettes une musique.
Il me semblait, c'est parce que moi
okay.
Je dis ça,
mais je vais lancer la musique.
Voilà, ouais, c'est ça.
Alors, ça s'appelle Wanabulé par... Non, ça s'appelle Nadra par Wanabulé. Et oui, c'était Nadra par Juana Bulé. Et je laisse les filles continuer.
Alors donc, comme nous disions tout à l'heure, avec, comme je disais avec un peu d'avance, Angie, nous commençons par la géographie de la ville de Berlin.
Et oui, très bien, nous allons donc débuter par la géographie. La première impression que donne Berlin est celle d'une ville étendue, aux rues très larges. Le Grand Berlin s'étire en effet sur 60 km de diamètre et présente une physionomie assez différente de celle des autres grandes métropoles, avec des banlieues boisées, baignées par des lacs plutôt que bétonnées. L'agglomération compte près de 4,5 millions d'habitants. Berlin-Centre, qui compte également de nombreux espaces verts, lacs, rivières et canaux, à une superficie de 892 km² et une population de 3,5 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Allemagne. Berlin ne se trouve qu'à 80 km de la frontière polonaise, au nord-est de l'Allemagne. Le climat continental, je perds mon casque, peut être parfois rude, mais comme la région se trouve à quelques centaines de kilomètres de la mer du Nord et de la mer Baltique, les entrées maritimes adoucissent la rigueur des saisons.
Alors, par quoi se caractérise Berlin ?
Son histoire, elle est le centre historique de la dernière guerre mondiale.
Donc, tu vas nous parler de l'histoire de Berlin à partir de quel événement ?
La ville va connaître un virage important avec l'arrivée des Huguenots français par l'édit de Potsdam en 1685. Frédéric Guillaume les accueille, c'est avec eux qu'il commence la véritable croissance de la ville. Le Französische Dom, la cathédrale française sur le Gendarmarkt, est un symbole important qui signale leur présence essentielle dans la ville. Sous le règne de Frédéric Hohenzollern, Berlin devient la capitale de la Prusse et une des villes phares du siècle des Lumières. Les châteaux de Sanssouci et de Charlottenburg date de cette époque. Berlin et la Prusse affirment leur suprématie avec Frédéric Guillaume II, dont le militarisme belliqueux permet à la Prusse de conquérir et d'annexer peu à peu les principautés et les duchés de toute l'Allemagne.
Alors, qu'est-ce qu'il a érigé, ce fameux Frédéric II ?
C'est lui que l'on doit notamment la porte de Brandebourg, qui faisait partie des remparts de la ville. Au 19e siècle, Berlin s'agrandit et se modernise. La gare de Friedrichstrasse est le témoin de ces changements. La ligne de chemin de fer, le Berlin-Potsdamer Eisenbahn, entre en service en 1838. Guillaume le fait ériger la Rothaus, l'hôtel de ville de Berlin. On aménage le parc zoologique actuel dans une partie de Tigerten et on construit le Landenwehrkanal.
Tu t'en sors bien quand même. Hein. Je dois dire que là, je suis assez impressionnée.
C'est un peu moche.
Alors, ces dirigeants allemands ont des liens très forts avec la France.
Oui. En 1871, l'Empire allemand est proclamé à Versailles sous l'égide du chancelier Bismarck. Berlin devient alors capitale de l'Empire allemand, qui inclut l'Alsace et la Lorraine. La Siegessäule, colonne de la victoire au centre de Tiergarten, est érigée pour commémorer les victoires de l'Empire. Le palais du Reichstag est inauguré en 1894. La défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale sonne le glas de l'Empire allemand en 1917. Mais avant de vous conter l'histoire de cette ville d'Allemagne, faisons une pause de l'histoire. Béné, tu as un livre qui illustre bien cette période d'histoire de Berlin.
Absolument, Angie. C'est une bande dessinée, ou plus exactement, une autobiographie graphique, comme il est d'usage de dire de nos jours. Alors, avec Rosa la Rouge, Kate Evans nous entraîne dans la vie tumultueuse et engagée d'une femme au cœur d'une période charnière de l'Allemagne du XXe siècle. Rosa Luxembourg naît en 1871 au sein d'une famille juive aisée polonaise dans un empire russe profondément antisémite et inégalitaire. À l'âge de 5 ans, suite à un mauvais diagnostic, elle est en proie à une claudication dont elle souffrira toute sa vie. Lycéenne malgré l'application de quotas pour les juifs, elle réussit brillamment ses études en découvrant parallèlement, lors d'un pogrom à Varsovie, les résultats de l'antisémitisme. Elle s'exile alors en Suisse pour suivre ses études. C'est là que son militantisme va naître et se développer, à la fois pour l'indépendance de la Pologne et la défense de la cause ouvrière. Là aussi, qu'elle rencontre le premier grand amour de sa vie, Leo Jogich, un révolutionnaire d'origine lituanienne. Ils s'influenceront l'un l'autre jusqu'à leur rupture dans les années 1910. Diplôme en poche, elle s'installe en Allemagne à la fin des années 1890. Afin de ne pas risquer l'expulsion en raison de ses idées politiques, elle contracte un mariage blanc afin d'acquérir la nationalité allemande. À Berlin, remarquée par le Parti social-démocrate, le SPD, par sa combativité, son éloquence et son intelligence politique, elle devient une sorte d'agitatrice professionnelle, appréciée du monde ouvrier. Journaliste, traductrice, elle parle 5 langues, dont son yiddish natal, et professeure à l'école du SPD, elle organise aussi des conférences dans toute l'Europe. Malgré de nombreux séjours en prison et une atmosphère nationaliste en ses années avant-guerre, elle reste profondément pacifiste et antimilitariste. Avec la révolution allemande et la fin de l'Empire allemand, et grâce à une amnistie générale, elle est libérée le 10 novembre 1918. Elle aura passé presque toute la guerre en prison. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxembourg est assassinée par des militaires d'une balle dans la tête et son corps est jeté dans un canal. Autobiographie graphique à la fois sensible et très documentée, Kate Evans, avec un noir et blanc tout en nuances, raconte avec justesse et un certain onirisme l'histoire extraordinaire, au sens premier du terme, d'une femme de conviction. Il y a fort à parier que vous ne resterez pas indifférent à ces combats, malheureusement toujours d'actualité.
Et qui est Kate Evans ?
Alors, cette auteure britannique de bande dessinée et de romans graphiques est née à Montréal en 1972, mais élevée dans le Surrey. C'est une femme engagée pour l'environnement, le droit des femmes et des réfugiés. Elle a d'ailleurs publié en 2017 un reportage graphique sur Calais. Threats from the Refugee Crisis, je ne suis pas sûre, Patrick, que ce soit correct, malheureusement, non encore publié en français. Rosa La Rouge, donc, c'est une Rosa La Rouge, une biographie graphique de Rosa Luxembourg, est publiée en 2017 et c'est disponible aux éditions Amsterdam.
Merci, Binet, ça nous donne bien l'ambiance qui règne à ce moment-là à Berlin.
Et je vais enchaîner avec une musique par System 91, Breaking the Waves. We'll be right back.
Quelle était cette musique, Patrick?
C'était Breaking the Waves par System 1991. Une année charnière pour Berlin. Si même moi.
Tout à fait.
Ouais, on en reparlera un peu plus tard. Oui. Donc, on est toujours sur Prune 92 FM hein, dans l'émission Valise et Gourmandise et nous sommes à Berlin ce soir. Donc, Angie, on reprend la suite de l'histoire de Berlin.
Oui, la République de Weimar, du nom de la ville où fut rédigée la Constitution, est instaurée. Principale ville industrielle d'Europe. Le premier aéroport du monde, Tempelhof, est construit en 1924. 1924 signe le début des années folles de Berlin, dit Golden Zwanziger. Cette courte période de prospérité prend fin, malheureusement, avec la crise économique de 1929. L'arrivée au pouvoir d'Hitler met un terme à la démocratie. Le palais du Reichstag est incendié le 27 février 1933. Les Juifs de Berlin sont les premières victimes de la barbarie nazie. Le quartier de Eschenkirch, là, j'avoue, Marquette, garde le souvenir de la nuit de cristal de novembre 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la capitale du Troisième Reich est une cible prioritaire des bombardements alliés. En 1945, la ville est en grande partie détruite, le centre-ville transformé en un désert de ruines, le Troisième Reich vaincu. Elle est occupée par les forces alliées, divisée en quatre zones d'occupation et devient le symbole de la guerre froide opposant les Russes aux Américains. C'est Bonn qui est choisie pour devenir la capitale de la RFA, République fédérale d'Allemagne, tandis que Berlin reste la capitale de la partie située dans la zone occupée par les soviétiques qui devient la RDA, République démocratique d'Allemagne. En 1961, les autorités est-allemandes prennent la décision de séparer Berlin-Est et Berlin-Ouest en construisant un mur hérissé de miradors pour empêcher l'exode des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Berlin-Ouest se structure autour du Kufensteindamm,
bravo,
tandis que Berlin-Est érige l'Alexanderplatz en nouveau centre-ville. Le 9 novembre 1989, des Berlinois de l'Est n'en peuvent plus et prennent d'assaut le mur. C'est la fin du mur de la honte, dit Schandelmur, comme les Allemands l'avaient surnommé. Le 3 octobre 1990, un an après la chute du mur, Berlin et l'Allemagne sont réunifiés. Mais il faudra attendre 1999 pour que le gouvernement et le Parlement s'installent effectivement à Berlin, dans l'ancien bâtiment du Reichstag rénové. Berlin retrouve ainsi son statut de capitale politique de l'Allemagne. Isolée durant des décennies, la ville assume aujourd'hui cette fonction essentielle dans un pays qui reste profondément fédéral.
Alors, revenons sur le fameux mur de Berlin.
Oui, tu as raison. Pour comprendre l'ambiance pesante toujours hein, qui est... Même après-guerre, ce qu'on appelle la guerre froide, je vais vous donner quelques éléments en plus. Après sa capitulation le 8 mai 1945, l'Allemagne est divisée en trois, puis quatre zones d'occupation sous administration soviétique, américaine, britannique et française, conformément à l'accord conclu à la conférence de Yalta. Berlin, la capitale du Troisième Reich, d'abord totalement occupée par l'armée rouge, doit également être partagée en quatre secteurs, répartis entre les alliés. Les soviétiques laissent alors aux occidentaux les districts ouest de la ville qui se retrouvent ainsi totalement enclavés dans leur zone d'occupation. Le secteur resté sous contrôle soviétique représentant à lui seul 409 km², soit 45,6% de la surface de la ville.
Oui.
N'est plus la bonne feuille.
Alors, la position et l'importance de Berlin en font un enjeu majeur de la guerre froide qui s'engage dès la fin des hostilités. Alors, ça représente quoi, le mur de Berlin?
Le mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest est officiellement appelé par le gouvernement est-allemand « mur de protection antifasciste ». Il est érigé en plein Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande, qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne, RFA.
Alors donc, physiquement, comment ça se présente?
Alors, le mur composant de la frontière intérieure allemande sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 28 ans et constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer. Plus qu'un mur, qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe comportant deux murs de 3,6 mètres de haut avec un chemin de ronde, 302 miradors et dispositifs d'alarme 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers le ciel. Un nombre indéterminé de personnes furent victimes des tentatives de franchissement du mur. En effet, des gardes frontières est-allemands et des soldats soviétiques n'hésitèrent pas à tirer sur les fugitifs.
Alors oui, en plus, ils ont essayé de passer le mur en ballon, en creusant des souterrains. Ils étaient pleins de ressources. Et donc, qu'est-ce qui a changé depuis ?
L'affaiblissement de l'Union soviétique, la perestroïka conduite par Mikhail Gorbatchev, et la détermination des Allemands de l'Est qui n'en pouvaient plus, comme je disais précédemment, qui organisent de grandes manifestations, provoquent le 9 novembre 1989 la chute du mur de Berlin, suscitant l'admiration incrédule du monde libre et ouvrant la voie à la réunification allemande. Presque totalement détruit, le mur laisse cependant, dans l'organisation urbaine de la capitale allemande, des cicatrices qui ne sont toujours pas effacées aujourd'hui. Le mur de Berlin, symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide, a inspiré de nombreux livres et films. Plusieurs musées lui sont consacrés.
Et il est temps pour encore une pause musicale. Oh. World Wide Web. Et je vous présente Don't Do It.
Yes!
Kibi. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et vous écoutez Valise des gourmandises.
Et voilà, nous avons eu droit à un beau morceau d'électro, bien comme je les aime.
Oui, c'est ce qu'on a remarqué.
Alors, World Wide Web, intéressant, c'est un artiste français qui a collaboré avec quelques groupes nantais avant d'aller s'installer à Berlin pour faire de l'électro. Parce que Berlin, c'est la ville de l'électro, comme
absolument.
Vous avez sans doute remarqué.
Absolument. Berlin et l'électro. Alors là, on va revenir à Berlin, vraiment Berlin. Et Angie, tu vas nous dire ce qu'il y a à voir à Berlin.
Oui, une multitude de lieux. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que la plus grande partie du patrimoine historique encore visible se trouve à l'est de la ville. Donc, je vais donc commencer par 15 coups de cœur du guide du routard sur Berlin. Alors, chaussez vos baskets pour parcourir l'histoire de Berlin sur Unter der Lieden. C'est le fameux boulevard sous les tilleuls qui, justement, comme le nom l'indique, a toute une tripotée de beaux arbres qui le longent. Longtemps été considéré comme les Champs-Élysées de Berlin-Est. Ensuite, on rejoint la coupole du Reichstag, symbole du Berlin moderne, siège du Parlement et must d'une visite à Berlin. Ce serait bien de commencer par là si vous faites côté ouest, puisque la vertigineuse coupole de verre de Norman Foster, vous montez dans la coupole du Reichstag et contemplez l'architecture futuriste du nouveau Berlin. C'est le point d'orgue du nouveau quartier des institutions de l'Allemagne réunifiée, le Reichstag. Une galerie hélicoïdale mène au sommet, ce qui permet une vue panoramique sur les architectures audacieuses de la chancellerie. Le Potsdamer Platz et la majestueuse avenue Unter der Lieden, au-delà de la porte de Brandebourg, un magnifique exemple de l'architecture futuriste du nouveau Berlin. Un tout autre style, mais qui est important toujours avec l'histoire, Yiddish Museum et Mémorial de l'Holocauste, la mémoire juive de Berlin. Ce labyrinthe de stèles à la mémoire des juifs exterminés est un passage obligé de toute visite de Berlin. C'est ce que m'a dit une amie qui est allée récemment. Cela fait bien comprendre le nombre incroyable, effroyable de personnes exterminées. Puis, dans un tout autre style, le château de Charlottesburg, chef-d'œuvre baroque à Berlin. L'un des plus beaux exemples d'architecture baroque de Berlin, abritant les appartements de Frédéric II. C'est à la fin du XVIIe siècle que Frédéric III, futur roi de Prusse, sous le nom de Frédéric Ier, fait construire Charlottesburg. Plusieurs fois agrandi au cours du XVIIIe siècle et cerné d'un grand parc. Le château arbore une façade de plus de 500 mètres, flanquée de deux grandes ailes. Gravement bombardé, le palais est actuellement une reconstitution à l'identique réalisée après 1945. On peut y visiter l'Altes Schloss et son cabinet de porcelaine, ainsi que la nouvelle aile et ses luxueux appartements juste en face, ne pas manquer le musée Berggruen. Avec notamment de splendides Picasso.
Alors, y a-t-il d'autres monuments à voir ?
Oui, le Kirchensteindamm, l'église du souvenir et le grand magasin K2E. Symbole des ravages de la guerre, surnommée la Dent Creuse, et la nouvelle église aux 20 000 blocs de verre bleu. Sorte de Champs-Élysées, le West berlinois, le Kudamm, avenue la plus fréquentée de Berlin, et ancienne vitrine commerciale du Berlin-Ouest, s'étire sur 3,5 km. C'est une artère arborée avec magasins chics, cafés, restaurants, théâtres, cinémas, galeries d'art et boutiques de mode. Elle débouche sur l'église du souvenir, dont la tour en ruine est flanquée d'une partie moderne qui, la nuit, se pare de la sublime lumière bleue, issue de ses 20 000 blocs de verre. Située près de Kudamm, et donc c'est le grand magasin de l'Ouest, est un peu l'équivalent des galeries Lafayette à visiter pour le légendaire.
Et comment il s'appelle ?
Il s'appelle de vœux.
D'accord.
Voilà. Ou le Kaufhaus des Westen.
C'était ça que je voulais.
C'est ça que tu voulais que je dise.
Oui.
C'est l'équivalent des Galeries Lafayette à visiter pour le légendaire sixième étage, royaume de la gastronomie. Ensuite, vous avez l'Hamburger Bahnhof. C'est une gare devenue musée d'art contemporain. Comme pour le musée d'art d'Orsay de Paris, c'était aussi une ancienne gare, l'architecture de la gare, construite en 1847, a été préservée. Dans l'immense galerie aux voûtes métalliques, on peut voir des œuvres d'Andy Warhol, Rauschenberg, Liechtenstein, Stromblie, Kees Haring, Julian Schnabel et Jean-Michel Basquiat.
Alors, est-ce que tu nous conseilles quelque chose de plus récent ?
Plus moderne, oui.
Plus moderne.
On prend la direction vers l'est à Friedrichshain pour l'East Side Gallery, une section de 1,3 km du mur couverte de fresques réalisées en 1990 par 118 artistes venant de 21 pays. Parmi les plus célèbres, le baiser de Honecker à Brezhnev et la fameuse Trabant défonçant le mur. Vous pouvez venir autrement sur l'Alexanderplatz, place historique de Berlin marquée par l'esthétique stalinienne et l'horloge universelle Urania.
Puis excuse-moi, c'est Urania.
Urania, pardon.
Ouais, je suis désolée. Hein.
Non, mais c'est bien. Quartier branché de Berlin-Est qui attire les artistes, les intellos et plasticiens boboisés avec la stalinienne Karl Marx Allee, Friedrichshain, ou autrement un autre quartier emblématique du Berlin alternatif, terre d'accueil de la bohème contestataire Kreuzberg. On peut revenir avec un fait historique et religieux, la synagogue typique de l'Europe centrale du 19e siècle, ses dimensions monumentales et ses tours octogonales, la nouvelle synagogue, la porte de Brandebourg dont je vous ai déjà parlé, c'est vraiment l'image touristique par excellence construite sur le modèle des profilés d'Athènes. Et le Potsdamer Platz, centre névralgique de Berlin aux ensembles ultra-modernes de verre et d'acier. Pour finir, deux lieux complètement atypiques. Commençons par Tempelhof, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était l'aéroport le premier, qui est devenu finalement un parc au bord des pistes de l'ancien aéroport où les Berlinois et touristes aiment se délasser autour d'un pique-nique ou faire une balade à vélo, car ils ont gardé en fait de grandes pelouses. Et pour finir aussi, il y a la Spree ou le lac de Wiensee. C'est le lieu de baignade par excellence à Berlin depuis plus de 100 ans. La plage qui a ouvert en tant que plage familiale en 1907 dispose d'une plage de 1275 mètres.
Et si vous permettez, on va faire une pause musicale avec Das Modell par Kraftwerk.
Ok.
Ja, danke.
c'était Kraftwerk. Non, c'était Das Model par Kraftwerk. Donc, quelque chose assez connu pour changer. Les autres, c'était assez nouveau. Ça, ça date des années 80, hein, classique du musique électronique synthé. Bon gros synthé qui tâche.
Donc,
on reprend avec la culture, les musées.
Les musées. Allez, vas-y.
Alors, l'île au musée est un incontournable de Berlin avec un ensemble exceptionnel de 5 musées. Le Neue Museum abrite les collections égyptiennes de Berlin, mais aussi le musée de préhistoire et de proto-histoire, ainsi qu'une collection d'antiquités avec en vedette le célèbre buste de la reine Néfertiti, épouse du pharaon Akhenaton. Au Pergamon Museum, on s'émerveille aussi, entre autres, devant les fulgurantes reconstitutions de l'hôtel de Pergame ou de la porte d'Ishtar. Le Bode Museum recèle de son côté d'une riche collection d'art allant du Haut Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Le Gemälde Galerie, l'une des plus importantes pinacothèques du monde, une pinacothèque est un musée exposant des œuvres picturales. Ce terme est généralement utilisé pour désigner des musées en Italie et en Allemagne. Ce musée possède une collection de plus de 2700 œuvres de XIIIe au XVIIIe siècle. Tous ces chefs-d'œuvre ont connu bien des aventures. Après la chute du mur, ils ont été regroupés en 1996 dans une nouvelle structure mettant en valeur tous les grands classiques de la peinture européenne. Van Eyck, Bosch, Botticelli, Raphaël, Latour, Poussin, Watteau pardon, et Velázquez.
Alors, après tous ces magnifiques musées de peinture, as-tu des suggestions pour la musique?
Oui, en musique, donc j'ai cherché qui était allemand. On en a plein, Mozart, Bach, Beethoven, etc. Mais de Berlin, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Donc, j'ai trouvé Max Bruch, allemand, meurt en Berlin et est connu pour son concerto pour violon et orchestre très beau et très triste. Dans un tout autre style, plus récent, Nina Hagen est née en 1955 à Berlin. Est en RDA et est une chanteuse allemande. On fera peut-être une
petit
voilà,
exemple
une
de
musique.
Je le laisserai en fond.
Allez, ouais, voilà. Donc Nina Hagen avec African Reggae. On continue avec les livres à lire pour vous imaginer l'ambiance de Berlin avant la chute. Dans le livre « Cet instant-là » de Douglas Kennedy, c'est une reconstitution historique, roman philosophique, roman d'espionnage, mais surtout histoire d'amour tragique dans la lignée de La poursuite du bonheur, une œuvre ambitieuse qui se situe principalement dans le Berlin d'avant la chute du mur, entre l'effervescence de l'Ouest et l'enfermement de l'Est, soumis à la terreur. À la fois drame psychologique, roman d'idées, roman d'espionnage, mais surtout histoire d'amour ainsi tragique que passionnée. Une œuvre ambitieuse, portée par le talent exceptionnel de Douglas Kennedy. Je ne veux pas vous en dire plus. Et puis donc, Béné, tu nous as trouvé un policier de Sébastien Witzen.
Absolument, donc un polar à la berlinoise avec « Ne les crois pas » de Sébastien Fitzek. Ça nous entraîne au cœur d'un thriller haletant. Donc voici la quatrième de couverture. Yann May, 35 ans, psychologue berlinois en vogue, est au téléphone avec Léonie, sa fiancée. La liaison est mauvaise, hachée. Toutefois, il l'entend dire « Ne les crois pas ». Quoi qu'ils te disent, ne les crois pas. Alors qu'il vient à peine de raccrocher, quelqu'un sonne à sa porte, un policier, qui lui annonce la mort accidentelle de Léonie une heure plus tôt. 8 mois ont passé, Ira Samin, une psychologue de la police, alcoolique et dépressive depuis le suicide de sa fille aînée, a décidé d'en finir. Mais alors qu'elle s'apprête à passer à l'acte, un de ses collègues vient la chercher pour l'emmener dans une station de radio. Un forcené s'est retranché dans un studio, et comme nous là, dans un studio, et menace d'abattre un à un ses otages si les auditeurs appelés au hasard ne prononcent pas la bonne formule. Ira, dont c'est la spécialité, sera chargée de mener les négociations. Bien vite, elle comprend que le forcené, Yann, a tenté ce coup de folie pour retrouver Léonie, qu'il refuse de croire morte. Et il est vrai que, malgré l'évidence, certains de ses arguments sont troublants. Elle ignore que la disparition de la jeune femme a été orchestrée au sommet de l'État. Vous l'aurez compris, complot ou pas complot, telle est la question. Thématique pas forcément originale, du « un des personnages semble tout à la fois parfaitement sain d'esprit et totalement psychotique », nous avançons donc avec l'héroïne en proie à ses démons intérieurs qui cherchent à comprendre cette situation incroyable et terriblement anxiogène. L'originalité de Ne les crois pas est surtout dans la profession de l'héroïne, négociatrice, plus que dans son caractère. Un personnage torturé, alcoolique, rongé par le remords et sauvé par une mission, telle une rédemption. Ce n'est certes pas très original, cependant, vous serez pris au jeu de ce récit berlinois, haletant jusqu'à la dernière ligne.
Qui est Sebastian Fitzek ?
Alors, cet écrivain polyglotte berlinois est né en 1971 dans cette ville divisée. Après des études de médecine, puis de droit, il devient rédacteur en chef du Berliner Rundfunk et publie son premier roman en 2008. 10 ans plus tard, son dernier roman traduit en français s'intitule « Siège 7A ». Pour sauver sa fille, un psychiatre doit provoquer le crash de l'avion à bord duquel il a pris place. « Ne les crois pas », publié en 2009, est disponible aux éditions Livre de Poche dans la collection « Thriller ».
Merci, nous allons continuer avec le cinéma. Donc, on a l'actrice allemande Diane Kruger, qui est connue pas seulement car c'est la petite fille de Michel Morgan, mais quelques films dans lesquels elle a joué. Benjamin Gates et les Templiers, Inglorious Bastards, donc avec le fond de l'histoire allemande et la guerre, avec une tripotée de bons acteurs, Benjamin Gates et le Livre des Secrets, tout nous sépare. Avec Catherine Deneuve, cette actrice trilingue peut se permettre des films en français, en anglais ou allemand.
Alors, as-tu repéré un autre film sur Berlin ?
Oui, oui, oui. La couleur de la victoire, c'est ou 10 secondes de liberté, il a un autre nom au Québec, est un film franco-germano-canadien réalisé par Stephen Hopkins, sorti en 2016. Il revient sur le parcours de l'athlète afro-américain Jesse Owens, qui à lui seul a contrarié les discours raciaux d'Adolf Hitler et empêché la glorification du Troisième Reich lors des Jeux olympiques en 1936 à Berlin. En 1934, en pleine période de ségrégation raciale, Jesse Owens arrive à l'Université d'État de l'Ohio pour travailler avec les meilleurs entraîneurs de l'époque. Ce petit fils d'esclave va y développer une relation étonnante avec un entraîneur blanc, Larry Snyder. Devenu entraîneur d'avant-garde, obsédé par la réussite, il ne fait aucune distinction de couleur entre ses protégés, contrairement à ses collègues. Les deux athlètes n'ont qu'un objectif, les Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin. Petite anecdote, Franklin Roosevelt ne félicitera jamais officiellement Jesse Owens et ne reconnut pas ses victoires aux JO de 1936.
Bon alors, tout ça nous a donné extrêmement faim, parce que c'est quand même du sport. Tu vois ?
Et oui,
j'ai faim.
Donc, puis c'est l'heure. Hein, on est...
C'est entre le goûter et le dîner.
Ouais.
Et donc, je ne sais pas si les Allemands ont bien un goûter et un dîner comme nous, mais on va vous donner envie. Alors, j'ai repéré 8 spécialités allemandes. Bien sûr, pas du tout diététiques, mais trop bonnes. Vous devez donc essayer à Berlin. L'Apfelstrudel, c'est un strudel aux pommes, un chausson aux pommes, mais pas le petit chausson aux pommes avec la petite compote française. Non, non, c'est carrément un chausson feuilleté, long comme une bûche de Noël, renfermant des pommes fondantes, des raisins moelleux et des amandes effilées. J'en ai la salive qui arrive. Craquante. Est-ce qu'ils ont piqué la recette aux Autrichiens ? Je vous laisse leur poser la question. Ensuite, une recette salée, un currywurst, c'est un plat à base de saucisses de Francfort ou de knacki, avec une sauce tomate, de la moutarde, du curry et souvent servi avec des frittenfois.
Spécialité de mon père.
Ah oui ?
Ah oui. Ouais.
Et pourtant, oui, une fois, mais une fois c'est belge, c'est pas allemand.
Oui,
mon Dieu.
Mais en fait, on peut se permettre. L'esben, c'est un jarret de porc salé qui est mijoté pendant plusieurs heures dans un bouillon, puis servi avec de la choucroute et des pois en purée. C'est une spécialité à Berlin et est un favori pour les touristes dans les restaurants. Parce qu'il est mijoté, il n'est pas croustillant à l'extérieur, esben peut être fait à la maison avec des ingrédients simples et d'excellents résultats. Le bretzel, ce fameux biscuit noué originaire de Bavière, le bretzel est bien une spécialité allemande, déclinée dans toutes les saveurs, Il est recouvert de garnitures comme le sésame, du fromage, des graines de pavot ou des graines de citrouille. Le donuts berlinois, le Berliner, dont la recette allemande est plutôt rapide et facile, se présente sous forme d'une boule moelleuse et fourrée selon l'envie, de la crème pâtissière à la marmelade au chocolat ou même au pudding blanc, saupoudré de sucre en poudre ou de sucre glacé. Le Wiener Schnitzel est une escalope de volaille panée. On n'a pas plus de détails, ça nous suffit, on peut la manger avec ce qu'on veut. Le Kartoffelpfeffer est une galette de pommes de terre avec de la farine, des œufs et du beurre. On a soif quand même, le Berliner Weiss mit Schuss. Cette boisson traditionnelle faite de bière et d'un Schuss, d'un Schutt, de sirop de framboise ou de Waldmeister est le breuvage idéal d'un été à Berlin. Je reviens quand même sur le hamburger. C'était une question radiophonique ce matin à un auditeur. Est-ce que c'est allemand ou d'une autre provenance? Oui, c'est bien allemand, le hamburger.
D'accord. Et je voulais dire, c'est plutôt qu'un shoot, ça serait plutôt un shot.
Un shot.
Parce qu'un shoot, c'est...
De sirop de
framboise. On est à Berlin, voilà. Mais quand même, quoi. Et donc alors... Il faut dire aussi, même si c'est très, très copieux, que comme on marche beaucoup, puisque la ville est très étendue et que
Exactement.
Vous allez faire beaucoup de kilomètres pour aller d'un lieu à un autre, on peut se permettre de manger des choses un peu roboratives. Hein.
Voilà.
C'est ça, parce que toutes nos calories, ça s'en
Elles
va
sont
après.
Mangées.
Voilà,
tout
absolument.
Va bien.
Alors là, tu m'as super donné envie d'y aller là. Là, comment je vais à Berlin là?
Alors, donc, on peut faire... j'ai fait une simulation pour un départ au printemps. De Nantes, en avion par exemple, le dimanche 28 mars. Tu peux partir à 12h50 de Nantes et tu arrives à Berlin à 15h05 et tu peux revenir le vendredi suivant à 17h55 à Nantes pour la modique somme de 122 €.
Alors, 28 mars, disons plutôt au printemps, parce que là, on
au
est mal barré pour partir
pas.
Le 28
voilà,
mars. Hein.
On ne se mouille pas, mais on sait que ça existe en
oui.
départ de Nantes. Pour l'instant, il nous en parle. Vous pouvez aussi y aller en train de nuit, comme ça, vous ne voyez pas le temps passer, parce que ça couvre quand même de Nantes toute la traversée de la France.
Oh là, mon Dieu,
ça l'est. Donc, en dormant, c'est plus facile. Et puis, donc, pour les hôtels, vous pouvez en trouver autour de 55 € la nuit avec un petit déj compris à 3 km à la ronde du centre-ville, donc tout près du métro.
Eh bien, écoute, moi, je trouve que c'est une superbe destination. En tout cas, ça donne vraiment envie. Et donc, notre émission va se terminer. Mais avant, je voudrais avant vous parler de l'émission prochaine,
puisque la future,
on espère revenir vous voir pour les vacances de printemps avec une destination surprise. Et en attendant, on vous souhaite une très belle soirée et puis on dit au revoir à Patrick.
Au revoir les filles.
Au revoir Angie et écoutez, portez-vous bien.
Voilà, et bonnes vacances si vous y êtes.
Et je vous laisse avec Heroes par David Bowie. Issu de sa trilogie berlinoise. Voilà.
Ouais, un fan de Kraftwerk.
Kraftwerk, oui. Beaucoup influencé
absolument.
Par Kraftwerk. Il a passé beaucoup de temps à Berlin. Et donc, voilà, c'est plaisir pour les oreilles.
Bah, absolument, on finit en beauté.
Voilà.
Portez-vous bien.
Salut.
Salut. Just for one day. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? We'll be right back.
such a good time. Like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be here.